Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foutre, édition spéciale aujourd'hui, édition à domicile. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel, qui est bien installé chez lui, qui respecte comme à l'habitude les règlements des patrons. Comment ça va, Jean?
Ça va, on essaye.
Ben, ça va être ça ma première question, en fait. La vie en confinement chez les Gounel, ça se passe comment?
Ça se passe pas trop mal. Mauvais moment pour arrêter le café, évidemment.
On va en profiter aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles, des premières nouvelles en fait, qui sont sorties depuis un bon moment du côté de l'UEFA. Il y avait une rencontre au sommet chez les grands dirigeants de l'UEFA aujourd'hui pour savoir ce qu'on allait faire avec la suite des compétitions et les compétitions qui devaient avoir lieu à partir de l'an prochain ou même cet été pour les équipes de jeunes. Là, puis corrige-moi là, si j'en échappe quelques-unes parce qu'il y a plusieurs nouvelles, même s'il n'y a pas de grosses nouvelles qui sont tombées. L'Euro des moins de 17 annulé, l'Euro des moins de 19 chez les femmes annulé aussi. Les barrages pour les équipes qui restaient à qualifier pour l'Euro 2020, qui est maintenant l'Euro 2021, mais ça a été repoussé à plus tard. Et pour le reste, toutes les compétitions de clubs sont suspendues. D'abord, qu'est-ce que tu retiens, puis est-ce que tu t'attendais surtout pour la dernière portion, la suspension des compétitions de clubs? Donc, on n'a pas plus de détails, on est juste en train de dire qu'on pèle par en avant. Est-ce que tu es un peu surpris de ça, qu'il n'y a rien de plus ferme qui a été annoncé aujourd'hui?
Non, pas vraiment, parce que je crois pas qu'il y ait d'autres décisions qui tiennent debout que l'UEFA aurait pu prendre. On va régler d'abord le cas des compétitions d'équipe nationale. Ça, c'est complètement mis de côté et c'est logique. Parce que c'est d'abord ce qu'il y a de plus simple à organiser, ce qui est aussi ce qu'il y a de plus simple à mettre de côté et à réorganiser pour un peu plus tard. Donc, pour l'instant, il y a un grand hiatus qui est mis sur les compétitions d'équipe nationale. Maintenant, là où il y a un problème, c'est les compétitions de club. On se rappelle qu'il y a 15 jours, l'UEFA s'était donné une sorte d'idée générale qui était essayer de finir pour le 30 juin. On se rend compte maintenant que, et c'est pour ça que l'UEFA a eu cette grande réunion aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, et essayer de coordonner au maximum la façon dont toutes les ligues nationales vont pouvoir reprendre et vont, enfin, vont, si c'est possible, vont pouvoir mettre un terme à leur compétition. Donc l'UEFA, elle, s'est donné, je dirais, un nouveau butoir qui est plus tard dans l'été. Pour l'instant, on a l'impression que c'est l'idée de dire on veut finir la Ligue des Champions, la Ligue Europa en juillet, août, et ça permet un petit peu à toutes les ligues nationales, tous les championnats nationaux, de s'aligner là-dessus en disant bon ben si c'est possible, on va essayer de reprendre pour de terminer pour ce moment-là.
Ben, le scénario hypothétique dont on parlait il y a 2 semaines seulement, Jean, celui des contrats, parce que c'était la raison pour laquelle on voulait conclure les compétitions avant la date butoir du 30 juin, parce que la plupart des contrats qui viennent à échéance cet été viennent à échéance le 30 juin. Là, de toute évidence, ça vient de sortir par la fenêtre. Et là, tu as un paquet de clubs qui vont avoir un méga casse-tête à gérer. Parce que si, par exemple, tu as une finale, tu réussis à te qualifier, parce qu'il n'y a pas juste la finale de Ligue des Champions, il va y avoir les quarts de finale et demi-finale, même avec certains huitièmes de finale qui sont à conclure. Là, tu te retrouves avec des gars qui pourraient être à quelques semaines de jouer une finale de Ligue des Champions et qui sont sans contrat. Je comprends qu'on veut repousser par en avant pour donner toutes les chances possibles de conclure comme il faut la saison 2019-2020, mais en même temps, là, tu as beaucoup, beaucoup de clubs qui vont se retrouver en difficulté et peut-être dans l'obligation soit de laisser partir des joueurs qui étaient là pour toute une campagne de Ligue des Champions et qui ne seront plus à la fin, ou de signer des nouvelles courtes ententes, à moins que l'UEFA dise, ben, les contrats, on vous permet de garder des joueurs pour ce qui est dans les faits, la saison 2020-2021, parce qu'il est là le problème. Jusqu'à tout récemment, si tu jouais pour un club en phase de groupe de Ligue des Champions, tu pouvais même pas jouer pour un autre club au tour éliminatoire après les fêtes. Là, on va faire comment si ces compétitions-là de la Ligue des Champions, sans oublier la Ligue Europa, se poursuit après le 30 juin?
Bon, je crois que ça, c'est exactement le genre d'éléments qu'il faudra peut-être mettre de côté pour une saison, parce que clairement ça va amener ce genre de problème. L'autre question que tu soulèves et qui va être la plus importante à mon avis, c'est qu'est-ce que les clubs vont avoir le droit de faire? Quelles vont être les règles un petit peu, sachant donc que on a des clubs qui se retrouvent en gros avec des effectifs de 25 à 35 joueurs, en prenant un petit peu tous les joueurs qui sont sous contrat, en comptant les joueurs qui sont en prêt. À la date, certains contrats viennent à terme. Généralement, tous les prêts viennent à terme. Ce qui veut dire que des clubs vont se retrouver avec un paquet de joueurs qui vont être. Qui ne sauront pas exactement quelle est leur situation. Alors, oui, retenir des joueurs, c'est bien, mais là, d'un autre côté, tu vas avoir les syndicats des joueurs, en particulier la FIFPro, qui est totalement opposée à l'idée de retenir certains joueurs et pas d'autres. Parce que ça veut dire on va couper un certain nombre de joueurs dans l'effectif, dont on n'aura pas forcément besoin, dont on pensait se débarrasser, et puis les mettre de côté et garder simplement un noyau. Et ce qui va créer une masse de joueurs qui vont passer un mois, 3 mois, 6 mois peut-être sans savoir où ils vont se retrouver. Là, on a vraiment un autre casse-tête d'un autre niveau.
Oui, parce que tu parles des salaires, évidemment. Là, tu as des clubs, puis il y a des clubs bien en vue qui se retrouvent dans une situation financière qui est précaire. Le monde du foot, c'est loin d'être dissocié de l'économie de manière générale. Et corrige-moi si je me trompe, mais tu peux pas faire comme plusieurs entreprises font présentement, des mises à pied temporaires, parce que là, tu rentres dans des clauses légales de contrat qui sont très, très ficelées. Et ça soulève toute la question des salaires. Parce qu'en ce moment, tu parles de la FIFPro. Tu as les associations des joueurs partout en Europe, et ça va être pareil sur le reste de la planète, bien, qui se demandent est-ce qu'on devrait accepter des paiements différés? Parce que c'est ce que les clubs veulent faire, attendre, repousser à plus tard quand l'argent va recommencer à rentrer dans les coffres, que ce soit en fonction des droits télé, mais surtout avec les recettes au guichet. Bien, à ce moment-là, on sera mieux équipé pour payer les joueurs. Et là, on ne parle pas juste des équipes qui sont en première division en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, etc. C'est des équipes de division inférieure qui, elles, peuvent rapidement se retrouver en difficulté.
Oui, absolument, absolument. Et là, on va parler des clubs qui sont plus bas dans l'échelle. Et effectivement, eux, ce sont eux qui ont des gros, gros problèmes. C'est-à-dire des clubs pour qui les recettes guichet sont essentielles et qui pour l'instant, voient absolument pas comment ils vont pouvoir faire de maintenir, d'arriver à maintenir à la fois un effectif, mais à tout le personnel qui vit du club aussi. C'est un casse-tête et effectivement, la possibilité que certains clubs mettent la clé sous la porte et ferment existe actuellement. On ne parle pas des clubs de première division parce qu'eux ont un certain coussin et vont trouver certainement des solutions, mais le risque existe pour les clubs de troisième, quatrième division, qui font généralement, et plus bas bien sûr, mais qui participent, si tu veux, au grand brassage, à la grande circulation des joueurs. Et ça, c'est un des problèmes sur lesquels les fédérations nationales et les associations de joueurs dans chaque pays sont extrêmement vigilantes. Et elles font très, très attention à ces situations-là. Pour la FIFPro, son discours actuellement, c'est on essaie le moins possible d'avoir des paiements déférés. On essaye d'avoir que les joueurs soit payé. Maintenant, évidemment, on comprend que ce n'est pas possible et on va vérifier, on va voir ça au cas par cas. Il est certain que c'est une masse énorme de situations différentes et pour le moment, ben, on est en train un petit peu de débroussailler le tout, sachant que pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait absolument pas comment ces clubs vont pouvoir survivre et on ne sait pas actuellement quelles sont les mesures qu'on va être capable de prendre pour pouvoir les aider.
Bon, dans tout ça, Jean, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a quelques belles histoires aussi. En Allemagne, on évalue à 56 000 le nombre d'emplois au pays qui sont directement reliés au foot. Donc, évidemment, ça affecte énormément de gens. Ça, c'est un seul pays à travers la planète foot. Et il y a des clubs comme le Borussia Dortmund où des joueurs ont accepté de prendre, les joueurs de l'équipe première ont accepté de prendre une baisse, une diminution de salaire pour s'assurer que les autres employés qui sont pas des joueurs ou pas des membres du staff directement affectés au travail sur le terrain, ben eux soient capables de maintenir leurs emplois.
Oui, effectivement, il y a eu des gros efforts de fait du côté, en particulier de l'Allemagne, efforts concertés avec. Oui, tu parles de Dortmund qui est en figure de proue un petit peu là-dedans. Il y a eu des accords, ou en tout cas les mouvements mis en place par d'autres clubs, le Bayern, Leverkusen, Mönchengladbach, conjointement donc avec le Borussia Dortmund, pour essayer aussi de créer un fonds qui puisse permettre à des clubs qui vont avoir de grosses difficultés financières à aider leur personnel. Et par le personnel, on revient encore toujours pas simplement les joueurs, mais aussi tous les gens qui vivent autour, comme tu dis, 56 000 personnes en Allemagne simplement, toutes les personnes qui vivent autour. C'est un bel effort qui est un petit peu dans la lignée de ce qui s'est toujours passé en Allemagne, où les clubs ont toujours été très très près du tissu social. Ils sont toujours vraiment très impliqués dans la vie, dans le quotidien et dans le tissu social du pays. Et c'est un exemple. Donc, je comprends que beaucoup de clubs vont avoir du mal à le faire et ce ne soit pas faisable pour tout le monde, mais c'est un exemple vers lequel il faut regarder et aller chercher du positif.
Une petite question toute simple maintenant. Il va arriver quoi avec le fair play financier?
Je pense que le fair play financier, ça va être quelque chose qui va falloir mettre en suspens pour quelque temps aussi. Je ne pense pas que ça puisse devenir une priorité en ce moment. Parce que là, franchement, je vois mal comment on va pouvoir sortir quelque chose et comment on va pouvoir recalculer, comment on va pouvoir recommencer un petit peu à reprendre les comptes des clubs et arriver à quelque chose. Je pense que fair play financier, ça va être quelque chose qui, pour l'exercice 2019-2020, va certainement pas être trop pris en compte.
Bon, en ce moment, on est dans le foot, on est dans les finances, on est dans les contrats, puis les calendriers de compétition. Mais il ne faut pas oublier que ben, l'aspect humain, l'aspect santé est la raison pour laquelle on parle de tout ça. Puis ça a été frappé de plein fouet en France par la nouvelle du décès de Pape Diouf, qui a eu un rôle très important à la tête de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009.
Ouais, Pape, c'était, je l'ai connu, j'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est avant tout, au départ, c'était un journaliste qui était impliqué. Et en fait, c'est parce qu'il voulait s'impliquer encore plus. Il voulait s'impliquer surtout au niveau de l'Afrique, au niveau des joueurs africains. C'est pour ça qu'il a un petit peu laissé son travail de journaliste de côté, qu'il a commencé à être agent de joueur. Il a travaillé avec Didier Drogba en particulier, à un moment où Drogba était vraiment pas connu, avant même que Drogba vienne à Marseille, à l'époque où il était à Guingamp, et même quand il est venu à Guingamp. Donc lui, il a vraiment travaillé avec lui. C'est pas quelqu'un qui s'est mis dans l'entourage Drogba pour essayer de gagner de l'argent, hein. Lui, c'est vraiment l'aide et le développement pour les joueurs africains. En se disant ça, donc journaliste, il n'arrivait pas à faire autant qu'il voulait. Agent, peut-être un petit peu plus, parce qu'il a permis d'aider des joueurs et à avoir de bonnes conditions en arrivant en Europe. Et il s'est dit que plus il était proche du pouvoir et du centre de décision, plus il allait avoir de les faire. C'est pour ça qu'il s'est impliqué de plus en plus. À Marseille, pendant 4 ans, il a aidé à rétablir une situation parce que le club avait connu quelques difficultés, en particulier financières. Il a aidé à rétablir la situation. Pape, c'était quelqu'un de continuellement impliqué, de toujours. Il vivait foot, continuellement.
Ouais, c'est certainement quelque chose qu'on voudra souligner du côté de l'Olympique de Marseille quand les activités vont reprendre le décès de cette ancienne figure importante du club en raison du coronavirus. Si on regarde ce qui se passe de ce côté-ci de l'Atlantique maintenant, Jean, il y a une nouvelle qui touche plus la politique municipale de Toronto, mais qui aura, à mon sens, un impact important sur la suite en MLS. On apprenait hier que Toronto met en suspens tout regroupement organisé ou supporté par la ville jusqu'au 30 juin. Ça, j'ai fait des petites recherches parce que c'est assez complexe. Le BMO Field appartient à la ville de Toronto, mais est opéré par MLSE et ça concerne les activités au BMO Field, donc ça concerne les activités du Toronto FC. Ça veut dire que si on se projette jusqu'au 30 juin, ça voudrait dire 19 matchs à reporter pour le Toronto FC, dont 10 à domicile. Quand tu vois ça, ce qui était jusqu'à tout récemment, et je pense que c'est encore le cas officiellement, l'intention de la MLS de toujours avoir en 2020 un calendrier plein de 34 matchs avec un marché aussi important, une équipe qui a fait 3 des 4 dernières finales de MLS Cup, qui ne pourrait pas reprendre ses activités avant le 30 juin. Est-ce que tu vois la MLS vraiment faire un calendrier complet cette année?
Ça va être au centre aussi de leur discussion, parce que tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, Olivier, c'est l'UEFA, parce que l'UEFA avait ce mercredi une énorme réunion qui allait lui permettre d'envisager les mois à venir. De ce côté-ci, effectivement, la problématique, elle est différente. La MLS avait dit qu'elle suspendait ses activités jusqu'au 1er mai. On se voit très bien que il n'y aura jamais de reprise à ce moment-là, pas plus que il y en aura durant tout le mois. Ce que tu nous dis là pour Toronto jusqu'au 30 juin, je pense que d'autres villes vont très certainement emboîter le pas ou prendre ce genre de décision. Pour ce qui est de la MLS, elle vit avec cette possibilité de faire durer la saison jusqu'en décembre, théoriquement, ce qui lui permet de dire, bon, dans la mesure du possible, est-ce qu'on va être capable de fourrer les 3/4 du calendrier dans une période de juillet-décembre. Plus le temps passe, plus on se rend compte que c'est de plus en plus difficile. Alors là aussi, il va falloir prendre certaines décisions et se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on envisage déjà un demi-calendrier, un calendrier allégé en reprenant un petit peu certaines choses et en demandant ou en laissant les clubs ne jouer, par exemple, que face à des adversaires de leur division. Peut-être que ce sera une option. Enfin, on est du côté de la MLS à la confluence de ces réflexions-là. Il va y avoir le cas de Toronto, comme je disais, à mon avis, il n'est que le premier et on va avoir la même chose qui va se produire dans la plupart des villes. Et d'un autre côté, on va avoir la réflexion de la MLS qui va être de dire, bon, plus ça avance, plus on se rend compte que l'objectif 34 matchs ne va pas être réalisable. Ou si c'est réalisable, ça va être des calculs complètement fous où on va jouer à trois fois par semaine, donc ça n'a pas de sens. Donc, commencez déjà maintenant à envisager des calendriers allégés si la MLS, et je pense que c'est son objectif, veut absolument reprendre et conclure une saison 2020.
C'est comme moi, Jean, que Don Garber est un commissaire extraordinaire. Ça, c'est le côté très positif, mais aussi un commissaire très, très, très responsable. Donc, qui va regarder tous les scénarios possibles pour affecter le moins possible le calendrier. Maintenant, si je te pose la question à toi, est-ce qu'on en est, si au Canada, là, on repousse les regroupements à Toronto jusqu'au 30 juin, sachant comment c'est géré au sud de la frontière, est-ce qu'on est au point de se demander si il va y en avoir une campagne de MLS 2020?
Je crois que c'est, on est effectivement au moment où il va falloir commencer à se poser cette question. C'était le scénario que personne ne voulait envisager depuis 15 jours, hein, clairement. C'est celui, bien entendu, que Don Garber et que personne dans la MLS ne veut voir et ne veut même parler, mais il est clair qu'il va falloir commencer à l'envisager. Parce que bah, pour l'instant, notre discussion d'aujourd'hui est un petit peu un exemple de tout ça. On a encore beaucoup de questions, on commence tout juste à même pas avoir des réponses, à envisager quelles réponses on va pouvoir donner. On a des questions. Pour l'instant, on sait que les dates butoirs qui ont été avancées il y a 15 jours, que ce soit en Europe, que ce soit ici, sont irréaliste, clairement, que tout finir pour le 30 juin, comme ça avait été dit, c'est absolument pas possible. Maintenant, on est en train de repousser, et c'est un peu le cas partout. On est en train de voir les échéances juillet, août, à l'automne, recommencer la saison en Europe, comment la finir ici. Pour l'instant, donc, on avance sans vraiment voir ce qu'il y a au bout du tunnel, parce que on ne sait rien, on ne sait rien du tout de comment, on ne sait pas comment on peut se projeter dans les 3, 4 mois qui viennent à l'heure actuelle. Donc, on est en train d'envisager des scénarios qui vont d'une reprise graduelle à partir de juillet, ça c'est dans le meilleur des cas, à une année 2020 où on ne pourrait pas rejouer du tout. Entre les deux, il y a énormément de marge, mais il est clair qu'actuellement, il faut être capable de se dire, bon, bah, cette possibilité-là, elle existe. Est-ce qu'il va falloir, quel type de solution plutôt allons-nous pouvoir trouver pour pouvoir reprendre? Mais est-ce qu'il y aura du jeu durant l'été? Est-ce qu'il y aura du jeu en septembre? Pour l'instant, personne ne peut vraiment le dire.
On parle de scénario, Jean, pour toi, pour le reste de la journée, les scénarios, c'est quoi? C'est aller prendre une marche, s'asseoir sur le balcon, regarder la télé, lire un livre, ça ressemble à quoi?
Ça va être promener le chien d'abord. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Et puis, ouais, essayer de prendre ça, de relaxer un petit peu, ouais, parce que ben, c'est pas à la maison là du monde et il faut essayer de garder un petit peu, de garder le moral et garder la pêche.
Et la plus grande qualité du chien, c'est que contrairement à moi, il va pas te parler de tous les scénarios du coronavirus dans le monde du foot. Donc, ça va
Non.
donner une petite pause. Justement, Jean, je te donne une petite pause jusqu'à la prochaine fois, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça a été super agréable de pouvoir jaser avec toi, puis on espère être capable de refaire cette expérience-là très rapidement. Salut, Jean.
De même, merci beaucoup.